Vous écoutez RTL. RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
19h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Christine Ockrent. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Avec l'éditorialiste au Figaro Yvan Ruvol. Bonsoir Yvan, j'ai mangé votre nom, je vais le redire. Yvan Ruvol, bonsoir. Avec le chroniqueur économiste à RTL, Christian Menanteau. Bonsoir Christian.
Bonsoir Marc.
Et l'écrivain Philippe Besson, bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Avant le premier sujet économique, une précision, puisque depuis tout à l'heure, on entend que l'homme, le meurtrier présumé donc de la petite Chloé à Calais, était sous le coup d'une interdiction de territoire français, donc il avait été expulsé à Varsovie, et qu'il était sous le coup d'une interdiction de territoire français qu'il n'aurait pas respecté. Une précision, Thomas Proutot, que vous venez d'apprendre.
Oui, alors en fait, cet homme n'était pas sous le coup d'une interdiction du territoire français. Il y a eu un quiproquo, une confusion depuis ce matin. Voilà pourquoi, en fait, il avait bien été condamné à cette interdiction de territoire français en 2010 par les juges. Mais les juges avaient fait une erreur. Cette condamnation était illégale au vu des délits pour lesquels il avait été condamné. Il n'avait pas le droit de le condamner à cette interdiction définitive du territoire. En 2014, quand il est sorti de prison, le procureur l'a vu, l'a constaté que c'était illégal. Ce n'est pas pour ça qu'il a été renvoyé à Varsovie, c'est pour un mandat d'arrêt européen qui avait été émis par la Pologne pour un cambriolage qui remontait aux années 2000. Il n'a donc pas, cette peine n'a donc pas rentré dans les fichiers, dans son casier judiciaire, n'est pas rentré dans les fichiers de police français. Donc ces derniers jours, lorsqu'il était en France, il n'était pas sous le coup de cet interdit. Il avait le droit finalement d'être là, précision importante.
Mais c'est vrai que la polémique commence à monter.
La polémique commence à monter, on a entendu l'UMP ou FN, les gens appelaient.
Le Schengen, avec l'espace Schengen qui était donc en accusation.
Pointé du doigt.
Là, en l'occurrence, donc il avait le droit d'être en France.
Alors c'est ce que dit le procureur de Calais que je viens d'avoir au téléphone il y a quelques minutes, qui me reprécise et qui l'affirme, non, cet homme n'était pas sous le coup d'une interdiction et c'est lui qui était chargé de la faire entrer en vigueur, donc on peut effectivement penser que tout cela est juste.
Merci Thomas Proutot. Alors le premier sujet, recherche désespérément, alors que le chômage touche toujours plus de 3 500 000 personnes en France, les entreprises tapent sur 1 700 000 recrutements en 2015, en hausse de 2,3% selon une étude réalisée par Pôle emploi. Parmi les métiers qui recrutent, les services à la personne, la restauration et les métiers scientifiques. Alors la faute à qui? Aux chômeurs, aux employeurs, aux études passées professionnalisantes sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir. On entonne comme d'habitude le refrain « pays d'assistés ». C'est scandaleux, on est vraiment dans un système encourageant la fainéantise. Revoyons notre système chômage, comme l'écrit Le Soul. Mais beaucoup ne sont pas d'accord. Si les jobs à pourvoir étaient un peu plus décents, il n'y aurait pas de problème, ils seraient pourvus, remarque Nardo. Des emplois à temps partiel, 15 heures par semaine, parfois moins, payés à coups de lance-pierre. On se demande bien pourquoi personne n'en veut, ironise Seb. Cédric assure qu'on ne fait pas vivre une famille avec ses plans bouche-trou. Jean-Luc tacle aussi les exigences des employeurs. Un des critères d'embauche, c'est jeune avec 10 ans d'expérience. Voilà une cause de ces emplois vacants. Il y affirme qu'on lui a demandé 6 mois d'expérience pour faire la plonge. Perso, je suis prête à bosser dans beaucoup de domaines. Je suis recalé parce qu'il faut de l'expérience avant même de pouvoir en acquérir. Et on me dit que les stages effectués auparavant ne comptent pas. Jérôme s'en prend lui à Pôle emploi qui publie ce chiffre de 1 074 000 postes alors que leur site ne compte en moyenne que 300 000 offres. Ils en font quoi? Et les gardent pour eux. Ça ne dérange pas Pôle emploi d'annoncer à tout le monde qu'ils sont incapables de pourvoir autant de postes alors qu'ils sont payés pour. S'étonne aussi Hervé. Lorraine leur répond pour finir. Vous voyez, du temps des papy-boomers, on se posait pas tant de questions. On prenait tout en attendant mieux. On n'avait pas de matelas de 400 euros si on boudait. C'était ça la période du plein emploi tant jalousé par ces jeunes générations.
Christian Menanteau, c'est vrai qu'on en parlait dans le journal de 18h. Tous les soirs, on parle du chômage, tous les mois, avec des chiffres catastrophiques. Oui. 1 700 000 postes à pourvoir, ils ne seront pas tous pourvus.
Oui, ça c'est. Alors, il faut bien regarder. C'est comme pour l'affaire le dossier que nous venons d'ouvrir sur la séquence d'infos. C'est comme Schengen. Il faut regarder les choses très précisément. C'est 1 700 000 intentions d'emploi. Mmh. C'est pas des jobs qui existent. C'est des sondages et on demande à des chefs d'entreprise, est-ce que vous auriez l'intention cette année d'embaucher? Et alors les gars disent, ben oui, je prendrais bien un gars, deux gars peut-être, ça va dépendre de la conjoncture, ça va dépendre de l'humeur de mon épouse, enfin tout ça, on va voir. Donc ça a une précision scientifique toute relative. Cela étant, et les auditeurs l'ont bien souligné, il y a quand même une inadéquation monstrueuse dans notre système économique entre les besoins des petites entreprises en particulier ou de certains secteurs, c'est-à-dire le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration et le service à la personne et à la petite enfance, et les propositions des gens qui n'ont pas d'emploi de venir sur ces métiers. Mais ça tient aussi au fait que les formations pour ces types de métiers sont en France délaissées dans les collèges et les lycées. On n'a pas une structure de professionnalisation qui donne la fierté de faire ces jobs. Donc c'est pas, on dit au gars ou à la fille, passe le bac d'abord. Donc, et certains n'ont pas cette vocation naturelle à faire des études académiques classiques et seraient tout à fait aptes à remplir ces métiers. Encore faudrait-il qu'on les valorise plus, et encore faudrait-il que le système éducatif se penche en relation avec Pôle emploi et avec les fédérations des employeurs sur cette inadéquation qui est perpétuelle. Je crois que la puissance publique le sait depuis 20 ans et qu'on n'a rien fait sur ce territoire.
Christine Ocrette, obliger des chômeurs à accepter un emploi pour lesquels, enfin, qui ne prendraient pas comme ça a priori.
C'est ce qui est pratiqué en Grande-Bretagne, par exemple. et on, sans arrêt, on évoque cette possibilité en France, où évidemment, culturellement, ça soulève aussitôt un énorme brouhaha, mais pour aller dans le sens de Christian Ménantot et pour faire le lien avec Schengen, on voit à quel point ces jobs qui existent, et notamment avec l'allongement de la durée de vie, etc., il est évident qu'il y a de l'emploi, mais qui est tellement mal valorisé que du coup, qui vient remplir ces emplois ? Des gens qui, eux, ont plus faim, pour dire les choses brutalement, et qui viennent de pays souvent d'Europe de l'Est, et qui sont prêts à accepter des emplois, qu'ils accomplissent d'ailleurs fort bien, et dans le respect la plupart du temps des règles, contrairement à toute la mauvaise réputation qu'on essaye à tout prix de leur attacher. Et donc, il y a bien cette question-là. Qu'est-ce que l'on considère comme un emploi convenable ? Et là, je crois qu'il y a à la fois du côté de l'éducation nationale et du côté des familles un problème presque d'ajustement entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et alors qu'est-ce qu'on imagine que d'abord le plein emploi est une notion qui depuis fort longtemps en France n'existe plus, elle existe d'ailleurs dans très peu d'endroits, et le problème c'est l'emploi optimal par rapport à une génération telle qu'elle est formée.
Et puis je crois une chose, pour rejoindre ce que dit Christine, je crois qu'on attache trop en France d'importance au lien entre la personne et l'emploi. Un emploi est très respectable, une personne est très respectable. En France, on considère qu'on est quelqu'un de bien si on a fait l'ENA et si on a un job formidable à la direction d'un conseil général. Mais on peut être...
Ou journaliste à RTL.
Journaliste à RTL.
De moins en moins. On est d'accord, Christian.
Comment, avec ce sondage?
C'est vrai. Philippe Besson.
Christian et Christine ont dit l'essentiel... Il faut effectivement rappeler qu'il s'agit que d'intention, donc je trouve qu'effectivement le message qui est envoyé est un peu excessif, ça donnerait l'impression qu'il y a plein d'emplois à pourvoir et que des feignasses qui voudraient pas le remplir, donc c'est pas exactement ça la vérité. Pour autant, néanmoins, il faut juste dire que c'est un signal positif supplémentaire que les intentions des entreprises soient effectivement de recruter, qu'il y ait plus de 20% d'entreprises qui souhaitent recruter. Non mais ça a de l'importance dans cette espèce de discours dominant qui nous est fait depuis des semaines, des mois et des années sur tout va mal, ma pauvre dame, etc. On est quand même dans un moment de l'économie française où la croissance repart un tout petit peu, où les déficits publics se réduisent.
Vous avez entendu, je crois que je dis pas de bêtises, Christian, en Allemagne, elle est deux fois plus importante que prévu, la croissance.
Oui, c'est ça. Oui,
mais enfin, et deux fois plus que la nôtre.
Oui, mais on l'attend à 1,4% en France en 2015, peut-être à 2% en 2016. C'est pas si mal. Donc il y a quelque chose qui repart. Donc ça, c'est pas si mal. Donc je pense qu'il faut entendre ça. L'autre chose, évidemment, c'est l'inadéquation de notre système de formation. Le problème aujourd'hui en France, c'est que tout ce qu'on appelle l'apprentissage ou les filières professionnelles n'est pas suffisamment valorisé. C'est
massacré.
Et on a une culture qui est l'inverse exact de l'Allemagne de ce point de vue-là.
Et le gouvernement en place.
Il y a un vrai travail culturel à faire de ce point de vue-là.
Et le gouvernement en place a une lourde responsabilité.
Maintenant, je voudrais juste.
Les compagnons du devoir, vous savez, c'est extraordinaire.
C'est formidable.
Ils n'ont plus un rond.
Mais ceci étant, je voulais quand même juste dire qu'il ne faut pas non plus penser que les chômeurs sont juste des gens qui ne veulent pas travailler. C'est des gens qui n'ont pas de travail, qui cherchent du travail pour 90% d'entre eux. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a une situation dans laquelle s'ils refusent plusieurs offres d'emploi, ils sont radiés des listes et il y a très peu de radiation. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui refusent ces emplois-là. Donc je ne voudrais pas non plus qu'on fasse un discours anti-chômeurs qui serait de dire les chômeurs ne veulent rien faire. Dans 90% des cas au moins, ils cherchent véritablement un travail et leur situation est extraordinairement précaire. Oui, enfin, je modère tout de même, je connais bien ce discours de dire que tous les chômeurs cherchent du travail, etc. Mais on
voit
bien
quand même
que culturellement, aujourd'hui, la France est installée dans, dans cette facilité qui a été faite par la, grâce à la solidarité publique, de s'installer dans le chômage. Et ce choix du chômage est un choix qu'il faut rompre.
Enfin, le chômage à 400 euros, ce n'est pas un choix extraordinairement luxueux.
Il faut mieux un emploi à 400 euros qu'un chômage à 400 euros.
Oui.
Et je pense que ce choix
du
chômage est pervers. Car en fait, ces chiffres-là...
Ce choix du chômage, vous dites,
Yvan ? Oui, ce choix structurel du chômage est pervers, parce que cela incite... d'abord, cela fait perdre aux Français le goût du travail, de mon point de vue, et cela incite à vivre au détriment des autres, sur le dos des autres, au crochet des autres.
Mais assister, quoi.
À travers cette solidarité. Et je pense qu'il est aujourd'hui, il faut quand même avoir le courage de réfléchir à ces excès, effectivement, d'indemnisation qui n'incitent pas ou à la reprise du travail. Et ces chiffres le démontrent, car en fait, cela démolit ce mythe qu'il voudrait que ces emplois non vacants n'existent pas, où on a eu ce débat ici. Je me souviens, on disait non, il n'y en a que 300 000. Je soutenais qu'il y en avait 500 000. Il y en a bien 500 000 qui ne sont pas effectivement, qui ne sont pas pris par les chômeurs. Il y a 5 millions de chômeurs. Et ce chiffre risque d'augmenter si l'on voit les perspectives qui sont fournies aujourd'hui par ces statistiques. Donc il faut quand même s'interroger de savoir pourquoi nous vivons dans ce monde absurde où nous avons un chômage qui grimpe sans arrêt.
Mais donc vous préconisez quoi, Yvan ?
Je préconise que l'on revoie ces règles du chômage. Je préconise que l'on revoie les incitations à revenir dans le marché du travail. Je préconise que l'on revoie les politiques d'assistanat. Je préconise que l'on revoie les incitations à accompagner les entrepreneurs qui veulent embaucher. Je préconise que l'on réhabilite les emplois à faibles valeurs ajoutées. Je préconise qu'on ait des intérêts à embaucher, à prendre des postes d'agents d'entretien ou d'aide à domicile, qui sont des postes qui sont les plus rejetés pour l'instant par ceux qui s'estiment être convenablement indemnisés par le chômage. Et je trouve qu'il faut sortir de ce monde. Nous n'avons plus les moyens de payer ainsi les gens.
Alors, Christian, et après on changera de sujet, si vous voulez bien.
Peut-être, mais simplement, il faut bien voir quand même que sur ce qu'on appelle terriblement dans les statistiques le stock de chômeurs, les deux populations qui sont les plus affectées sont les jeunes, à qui on ne peut pas reprocher le jour de leur naissance d'être des feignasses, et les seniors.
Et les seniors.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile en toute franchise de rencontrer Exactement. Un chef d'entreprise qui vous dit...
Bien sûr, je vais recruter quelqu'un de 50 ans ou 55 ans.
55 ans.
Jamais.
C'est très rare. Sauf si c'est un expert.
Allez, on change de sujet si vous voulez bien. À suivre, vous l'avez entendu tout à l'heure sur RTL, Jean-Luc Romero, sa mort lui appartient, l'euthanasie. On en débat dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde
dans RTL Soir.
19h33 sur RTL, on refait le monde ce soir avec Christian Manonto, Christine Ockrent, Yvan Rioufol, Philippe Besson. Je suis persuadé que la légalisation de l'euthanasie n'est désormais qu'une question de temps. C'est le sens de l'histoire. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure de Jean-Luc Romero sur RTL. Il publie un livre d'entretien. Tiens, ma mort m'appartient, où il raconte ses engagements et défend donc la légalisation de l'euthanasie. Et pour vous, votre mort vous appartient, Philippe Besson ?
Oui. Oui, moi je pense que notre mort nous appartient, notre vie nous appartient, notre corps nous appartient. Pourquoi notre mort devrait-elle nous échapper ou pouvoir nous échapper ? Je pense que, moi j'ai toujours dit, et souvent ici à ce micro, à cette antenne, que j'étais favorable à l'euthanasie, j'étais favorable au suicide assisté. Je considère que c'est une faculté qui doit être ouverte, une faculté qu'on ouvre n'est en aucun cas une obligation qu'on fait, évidemment. Donc la possibilité doit exister pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a des situations intenables de souffrance interminables, psychiques ou physiques, qu'on ne peut pas amoindrir, et il faut bien trouver des solutions. Que par ailleurs, il y a des gens qui effectivement choisissent de mourir et qui peuvent ils doivent pouvoir le faire dans la dignité. Qu'aujourd'hui, tout ce qui existe en France ou ce qui n'existe pas fait que tout ça est fait de manière clandestine, cachée, inhumaine, hypocrite. Donc on est soit dans l'inhumain, soit dans l'hypocrisie, soit dans le risque. Que du coup on oblige des gens à aller à l'étranger pour faire cela, en Suisse, en Belgique, ailleurs, aux Pays-Bas, ce qui n'est pas souhaitable. Donc je pense qu'il faut un cadre légal aujourd'hui, que effectivement c'est le sens de l'histoire, et qu'au fond l'euthanasie se trouve dans la situation où se trouvait l'avortement il y a 40 ou 50 ans. Cette question sera réglée dans quelques années. C'est pas militer pour l'euthanasie, c'est militer pour la liberté d'une certaine manière aussi. Voilà.
Liberté de chacun à choisir de sa fin. Yvan Rioufol.
Écoutez, moi, ma vie m'appartient, je suis d'accord, en effet, mais ma mort me dépasse, c'est un mystère, c'est quelque chose que l'on subit, ma mort me terrasse et ma mort me rend même minuscule. Je trouve qu'il y a un péché d'orgueil à entendre ceux qui vont dire qu'ils veulent être maîtres de leur mort. D'abord, ça ne veut rien dire d'être maître de sa mort. Et puis ensuite, je pense que celle-là, je ne vois pas où est le progrès de la civilisation de dire que l'on va pouvoir
autorisés à tuer. Je crois qu'il faut faire attention à ces genres de débats qui me semblent...
C'est autorisé à mettre fin à des souffrances ou autorisé à partir
d'un intimité ?
Non, mais
vous savez très bien que le débat a été très bien posé aujourd'hui dans l'euthanasie, parce que les soins palliatifs permettent aujourd'hui de pallier précisément ces souffrances-là.
Mais vous savez qu'il n'y a que 20% des gens qui peuvent bénéficier.
Si vous mettez le pied dans la porte de cette euthanasie-là, vous risquez d'en accentuer les abus, c'est-à-dire que vous risquez au prétexte de vouloir libérer des lits, de vouloir accélérer des disparitions gênantes, etc., vous risquez effectivement de supprimer des gens qui dont le font peut-être que dans leur dernière volonté n'ont qu'une envie, c'est de ne pas déranger.
Non, mais le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui décide
de sa propre mort. Si elle veut supprimer ses jours, si elle veut mettre fin à ses jours, elle en est bien libre, naturellement. Mais je
vous le conseille quoi, contre, passer sous un train.
Je suis contre la légalisation de l'euthanasie, si j'en ai encore le droit. Et je pense que les soins palliatifs qui sont proposés avec cette loi qui a été à nouveau votée, le permettent au contraire d'une fin plus humaine. Et encore une fois, la mort ne nous appartient pas. La mort est à quelque chose qui nous dépasse et je ne vois pas en quoi on pourrait en devenir maître.
Moi, je pense à l'inverse, comme Philippe Besson, que ma mort m'appartient, mon corps m'appartient, mon sort m'appartient. Je crois qu'il faut éviter l'utilisation du mot euthanasie pour des raisons historiques évidentes et aussi parce qu'elle induit l'idée que quelqu'un d'autre peut décider de cet acte d'euthanasie, et c'est là bien évidemment où toutes les déviances sont possibles. Mais affirmer que les soins palliatifs en France existe à un niveau suffisant, c'est faux.
C'est faux.
D'abord, ils ont été introduits très très tard par rapport à d'autres pays d'Europe. C'était, si ma mémoire est bonne, au cours des années 1990. Ils restent très très insuffisants par rapport aux besoins. Et il y a en plus, parmi les médecins, dont c'est l'un des pouvoirs. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir médical est aussi celui-là, et il y a parmi les médecins, et souvent pour des raisons tout à fait respectables, mais parfois aussi pour des raisons d'exercice de ce pouvoir, l'idée que, au fond, la souffrance, c'est moins important que la survie. Et c'est là, me semble-t-il, où chacun d'entre nous doit pouvoir décider. Hélas, je l'ai vu.
Qui ait dit ça, qui ait soutenu ça. J'ai vécu ça de
hélas,
près.
Yvan Rioufol, je connais un peu le milieu médical. Et hélas, je crois que nous avons tous, parmi nos proches, les soins palliatifs
ne sont pas encore suffisants, mais de
nous
là,
avons tous,
à ce prétexte-là,
si vous me permettez
de dire,
terminer, parce que c'est suffisamment douloureux, et je suis sûr que les auditeurs le comprennent. Je crois que nous avons tous autour de nous, dans nos familles ou parmi des gens proches, des gens qui vivent des situations atroces.
Oui.
Et donc, par rapport à cela, je crois qu'il ne faut pas se réfugier derrière cette idée que les soins palliatifs, voilà, il y en a partout, que tout le monde est pour et que ça résout tous les problèmes. Je crains que ce ne soit pas
bien désinvolte.
Désinvolte ?
Oui, je vous trouve bien désinvolte avec la vie. Je suis désolé.
Je vous parle de la mienne.
Non, là, vous parliez de la vie de la vie des autres. Mais c'est ça qui est, c'est là où est le
drame. Je ne crois pas parler de la vie des autres.
C'est là où est le drame, si, parce qu'en général, vous savez, quand vous êtes en fin de vie, vous n'avez plus les moyens d'exercer votre propre volonté.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut un encadrement, où il faut des traces écrites, il faut un testament de confiance à une personne qui est proche de vous, au cas où, effectivement, la diminution de vos facultés...
Moi, je me méfie de la pression familiale, de la pression sociale, de cette pression qui vous ferait comprendre, dans le fond, dans votre état de faiblesse, que vous avez à dégager plus rapidement de prévu. Moi, je n'aime pas ça.
Christian Ménantot, pour conclure.
Je ne vais pas me permettre de conclure sur cette affaire. Je dis simplement
le débat, oui, après. Je ne dis pas que débat, c'est votre voix qui sera prépondérante, mais le débat, c'est la vôtre.
C'est clair, mais Yvan Rioufol a toute liberté de s'orienter vers ces soins palliatifs dont il
pense...
Vous
êtes trop bon.
À condition d'en trouver.
Il y a 20% seulement des gens qui devraient en avoir qui en bénéficient.
Ce n'est pas encore suffisamment répandu. Peut-être grâce à son intervention vont-ils se multiplier. Mais globalement, je ne vois pas pourquoi on accepterait la prolongation via des soins palliatifs de séquences extraordinairement douloureuses à la fois, puisqu'on les met sauf à dire qu'on n'est pas maître de sa vie et de son corps et de son destin, c'est quand même la dernière de nos libertés. Donc, essayons de la conserver un tout petit peu. Si l'on considère que on est dans ce cas de figure, vous pouvez choisir le soin palliatif, et je pense qu'il faut qu'on tolère que les autres aient ce choix.
Permettons que cette faculté existe.
Bien sûr, il faut qu'elle soit sur la table et qu'elle existe, et qu'on puisse s'en emparer, en discuter.
Ce débat est tranché très régulièrement, et très régulièrement, Romero remet sur la table ce problème.
Mais il est tranché par qui ?
Et par le Parlement, dans les débats, les députés.
De façon toujours insuffisante.
Et à chaque fois,
la loi reste insuffisante.
Pour dire que non, c'est pas suffisant. Donc peut-être qu'il aura raison sur la fin, mais je ne le crois pas, je ne vois pas où est le sens de l'histoire à vouloir comme ça jouer avec la mort.
Allez, on change de sujet. À suivre, la loi sur le renseignement crée la polémique. On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
À 19h44, on refait le monde ce soir avec Christine Ockrent, Yvan Youfol, Philippe Besson et Christian Menanteau. Tous surveillés, l'examen de la loi sur le renseignement vient de s'achever. À l'Assemblée, elle prévoit une utilisation plus large de certaines techniques d'espionnage. Les opposants parlent d'un texte liberticide. François Fillon, mais aussi Eva Joly, vous l'avez entendu tout à l'heure sur RTL, veulent saisir le Conseil constitutionnel. Eva Joly qui dénonce une diversion pour mettre en place un système de la NSA à la française. Alors vous avez peur pour votre liberté sur les réseaux sociaux ?
Très remontée contre cette loi, les internautes et depuis des semaines, les plus pessimistes comme Olimar écrivent que l'entrée de la France en dictature est maintenant officielle. Les plus mesurés comme Ludo écrivent que sous prétexte d'améliorer notre sécurité, la loi renseignement entrave considérablement nos libertés et pourrait être utilisée à mauvais escient. Hervé Morin estime que François Fillon a raison. Le Premier ministre s'honorerait à saisir le Conseil constitutionnel pour dissiper les inquiétudes. Francesco rappelle qu'il faut être 60 députés pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. J'espère qu'il a les troupes pour. Pourtant, Bernard Cazeneuve, lui-même, ce matin, a répondu aux inquiétudes des internautes sur Twitter. Il assure et martèle « La loi que je défends interdit la surveillance de masse et ne comporte aucune mesure privative de liberté. » Mais Crazy lui répond « Je ne souhaite pas vivre dans un monde où nous abandonnons nos libertés pour céder à la terreur. » Thomas demande « Désolé de mon ignorance dans ce domaine, mais ça signifie quoi réellement saisir le Conseil constitutionnel ?» Olivier lui répond qu'une loi ou certaines dispositions de celle-ci censuré par le Conseil constitutionnel ne pourrait s'appliquer. Éric conclut sur une note positive. Rassurez-vous, une fois la loi renseignement votée, vous pourrez manifester de chez vous, juste en murmurant non à l'État policier.
Christian Menanteau, en même temps, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, ou je sais pas, c'est peut-être pas la bonne expression, mais en même temps, voilà, il faut
arrêter quand même de jouer les bisounours. Ça a toujours été, le renseignement a toujours été un des éléments de la souveraineté d'une nation et d'un pays. Et la France, qui a des moyens technologiques plutôt sophistiqués en la matière, et a toujours été, non pas à la pointe, les Anglais et les Américains sont beaucoup plus avancés dans ce secteur-là, mais nous avons toujours été plutôt dans les très bons. Alors, l'avantage extraordinaire de cette loi sur le renseignement, c'est qu'on est en train de découvrir en réalité qu'il y avait beaucoup plus de structures de renseignement.
Oui.
Quelques boîtes noires.
Voilà, quelques boîtes noires.
Dans l'État français. Et des pratiques
dont on ignorait tout et qui étaient le quotidien de ce pays. Donc, ça, à la limite, ça a donné une sorte de séance d'ouverture de fenêtre. On sait un tout petit peu mieux quels sont les outils qui nous permettent de nous surveiller. Je crois que l'évolution technologique est tellement rapide en ce moment. Elle est tellement sophistiquée que l'encadrement de la loi, on peut même annuler complètement de cette loi. Je crois que les outils seront toujours sur le marché et disponibles et qu'ils seront toujours utilisés.
D'accord, mais est-ce qu'il faut qu'ils soient pour autant légalisés? C'est la question. Ben, après, que ça se fasse dans notre dos. Mais est-ce qu'il faut donner.
Non, je crois, Marc-Olivier, je crois surtout qu'il faut donner un encadrement juridique et puis surtout une structure de protection pour le citoyen lambda. C'est-à-dire que, à la limite, tout le monde a raté Ben Laden quand ils ont fait leurs attentats. Tout le monde a raté les Koulibaly ou les frères Médard. Donc ça, on les a ratés avec tous ces outils. Donc, mais il faudrait pas que le citoyen qui, lui, se trouve par hasard, par homonymie, par position géographique, parce que simplement il a eu un flirt avec une fille qui a un copain qui, à un moment donné, a fait une sottise, se trouve broyé dans le système. Moi, ma grande inquiétude, c'est plutôt là qu'elle se trouve. C'est quelle structure de protection le législateur va nous donner à nous, le citoyen ordinaire, face à ces énormes machines. Parce que les
machines, elles existent, il faudra faire avec, quoi.
C'est plutôt, donnez-nous des outils pour que je puisse me défendre juridiquement, légalement, si un jour je suis pris dans cette
nasse. Oui, et le problème, c'est qu'on a l'impression que les outils prévus par le législateur sont des outils a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, cette commission nouvelle agirait sur plainte, mais une fois que le mal a été fait. Et donc ça, quand on connaît les délais de la justice, on imagine qu'il y a des gens qui risquent pendant des années d'être traînés dans des procédures qui n'en finissent plus. Mais encore une fois, le paradoxe de toute cette histoire, comme le dit Christian, c'est que, en fait, certaines pratiques étaient en cours de façon totalement illégale et que donc, en fait, ce nouveau dispositif va légaliser des habitudes qui étaient déjà pratiquées par les agents des services. Mais je crois que ce sont des habitudes nécessaires et qu'il est totalement illusoire d'imaginer dans le monde d'aujourd'hui que l'on peut vivre à l'abri de toute espèce de système de surveillance. On ne peut pas d'un côté, à juste titre, se lamenter et pleurer collectivement face à la barbarie et en même temps s'imaginer qu'on ne peut pas utiliser des moyens différents et nouveaux et qui passent forcément par une technologie invasive.
On y revient dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
On refait le monde donc ce soir à 19h51 sur RTL avec Philippe Besson, Yvan Rioufol, Christine Ockrent et Christian Menanto. On reprend notre débat donc sur la loi antiterroriste, sur le renseignement donc qui a été présenté à l'Assemblée. Yvan Rioufol, est-ce que vous pensez que c'est une avancée pour la démocratie ou vous craignez pour nos libertés?
Bon, on a déjà eu ce débat, je me suis déjà prononcé en faveur du fait qu'en temps de guerre, il fallait se protéger. Donc la démocratie laisse des plumes, malgré tout, mais il faut faire attention, naturellement, à y mettre des garde-boue. Là, j'ai quand même un peu évolué après avoir lu les textes. Il y a des textes qui sont quand même particulièrement flous et qui permettent naturellement d'effectuer des surveillances contre des terroristes, mais qui permettraient également, par extension, d'en faire des surveillances politiques. Et donc, il y a là, quand même, quelque chose de très grave, même si le gouvernement n'a pas cette intention-là, on l'imagine, les textes le permettent, je n'ai pas apporté le texte en question, mais la lecture permet d'écouter un organisateur de manifestation ou un opposant virulent, il permettrait de faire ces écoutes-là.
C'est ce que dit Marc Trévidic ici sur RTL, il dit le texte, entre de mauvaises mains, serait mal utilisé.
Voilà, et donc là, du coup, la démocratie serait en danger. Et deuxièmement, il y a quand même quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, qui a été évoqué un peu rapidement, c'est que tous ces organismes qui existent déjà, naturellement, qui ont été révélés, n'ont pas réussi à faire arrêter ou à faire arrêter la marche des frères Kouachi ni de Koulibaly. Et donc, cet arsenal a ses faiblesses. Et donc, il faut également regarder ailleurs où se passe le terrorisme. Or, je n'entends pas beaucoup dans les discussions, dans les arguments, que le terrorisme il peut être également, naturellement, dans les mosquées. Alors, est-ce que les mosquées sont suffisamment surveillées? Dans les prisons? Alors, j'entends dire que les prisons seraient surveillées. Il y a eu un amendement qui, en ce sens, mais je n'en ai pas très bien saisi la portée.
Les écoutes téléphoniques des prisonniers, oui.
Voilà. Et donc, il ne faudrait quand même pas éviter l'essentiel, que si l'on veut vraiment aller au cœur du noyau terroriste, qui est de ne pas aller voir où il se trouve, car on sait dans le fond où il se trouve. Il y a 90 mosquées salafistes maintenant, ou 80, je ne sais plus, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, etc. Donc, il y a quand même, là aussi, à avoir des surveillances accentuées, qui seraient davantage légitimes que des surveillances lambda et des surveillances larges, voire massives, car dans le fond, ce sont aussi des surveillances massives.
Oui, alors, le type de gauche que je suis devrait être effrayé par cette loi et par ces intentions qui sont effectivement plus liberticides qu'autre chose, quand même. Effectivement, on sent bien que ça renforce quand même l'arsenal de surveillance. On sent bien qu'il y a beaucoup de boîtes noires ou d'imprécisions qui permettraient des interprétations un peu bizarres ou des intrusions qu'on ne souhaiterait pas. Mais pour autant, je n'arrive pas à être choqué par cet arsenal parce qu'effectivement, moi personnellement, dans l'arbitrage entre liberté et sécurité, je suis prêt à arbitrer en faveur de la sécurité contre la liberté. Surtout, j'en ai assez qu'on
perfide sort de ce corps.
Non, mais qu'à chaque fois que justement qu'il se passe un événement, on nous dise ah oui, mais on n'a pas surveillé assez, on n'a pas su, etc. Et puis dès qu'on veut surveiller davantage, on nous dit c'est pas possible. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, surtout, peut-être c'est extrêmement naïf ce que je vais dire, mais il se trouve que nous sommes en France. Nous sommes donc une république, une démocratie, un état de droit avec une tradition d'état de droit. Je veux dire par là que nos institutions ne sont pas des institutions criminelles, dévoyées, que nous avons des... que moi j'ai confiance, bizarrement, entre en la police et la justice de ce pays. Et que jusqu'à présent, je n'ai jamais pris la police et la justice de ce pays en défaut d'abus de pouvoir ou d'exercer un pouvoir absolument effrayant.
Sous Mitterrand, rien, vous n'avez pas vu. Vous n'avez rien vu venir.
Sous Chirac non plus.
Vous êtes vraiment charmant.
Encore une fois, est-ce que les citoyens lambda, se sont trouvés dans des proportions considérables par rapport à d'autres démocraties, par rapport à d'autres républiques, dans des situations compliquées? Je dis qu'en France, il me semble que nous sommes un peu plus dans l'état de droit qu'ailleurs. Donc j'ai un peu confiance dans la police et la justice.
Vous modérerez votre enthousiasme.
Oui, sans enchaîner sur les grands principes et sur des réalités qui sont parfois moins réjouissantes. Il y a une chose qui est apparue aussi, me semble-t-il, c'est que l'un des problèmes, c'est que les différentes chapelles au sein des services ne collaborent pas entre elles. Et que donc, il y a, comme souvent, des querelles de territoire, des gens qui ne partagent pas les données. Et donc là, il y a sûrement un travail élémentaire de coordination, de mise en commun.
Le partage, oui.
Je crois que c'est prévu.
Mais moi, je reviens quand même sur ce que vous avez dit. C'est quand même étonnant qu'un homme de gauche tienne le discours que...
Je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'était un discours à rebours de ce qu'est en général ma pensée.
La loi sécurité et liberté. Oui. Et souvenez-vous de ce que la gauche disait à cette époque-là contre la loi Perfit.
De ce point de vue-là, je suis à rebours de mon camp.
Ah ben oui, comment oui.
Merci à tous les quatre.
Vous reniez votre camp. Même.
Merci à tous les quatre. Philippe Besson, Yvan Youfol, Christine Ockrent et Christian Menanteau. Une précision, Serge Moitié était là la semaine dernière. Et je lui ai promis d'annoncer son très beau doc à ne pas rater ce soir sur France 3, 23h35, Quai d'Orsay, les coulisses de la diplomatie.
On peut faire sa pub alors. Bah ouais, voyez.
Pendant plusieurs mois, vous le savez, il a suivi au quotidien Laurent Fabius.
Moi, c'est samedi, midi 45.
Et c'est diplomate.
Ne changez rien.
Restez là.
Allez, ne changez rien. Dans un instant, le flash de 20h. Ensuite, Thomas et Sidonie, bonsoir.
Bonsoir Marco.
Et nous, c'est tous les soirs, hein, 20h, 22h sur RTL, la curiosité est un vilain.
Hier, avant-hier, il y avait foot. Hein.
Et bah vous, oui, vous partez en vacances des semaines entières parfois.
Tu n'es là que 4 jours par semaine. Je rappelle que Marco Olivier n'est là que 4 jours par semaine.
Eux aussi. Donc,
et comme on n'était pas là, on n'a pas pu se féliciter pour nos bonnes audiences.
Ah, oui, c'est vrai, bravo.
Voilà, ça c'est fait.
On vous retrouve après le flash de 20h. À tout de suite.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.